que je peux m'installer sur un... Oui, OK. Alors, bonjour. C'est intéressant d'être ici. Je reconnais des visages que j'ai rencontrés à Chauveau. Pas juste que j'ai rencontré. Il y en a qui connaissent Danny Asselin. J'ai resté chez lui pendant un an. C'est pour ça qu'il y a des cheveux gris. Alors, ça va être intéressant. Là. Danny a été mon garçon d'honneur à mon mariage. Alors, je reconnais quelques visages aussi, monsieur, madame, j'ai oublié le nom de famille, là. Lagacé, c'est ça. Mais c'est bon d'être ici, d'être avec vous. Et c'est bon, comme Éric l'a mentionné, on veut juste vous dire merci. Une église qui ne nous connaît pas, mais qui nous soutient. Alors, on est très reconnaissant. C'est intéressant pour nous de pouvoir faire l'œuvre. Alors, vous savez, implanter une église, c'est pas évident. Alors, au début, il faut tout faire. On fait l'administration, on fait la formation de disciples, on fait l'évangélisation, on forme les leaders, on forme les familles. Et de ne pas avoir à se soucier de est-ce que là on a les finances pour avancer, c'est un fardeau énorme qu'on n'a pas. Et quand les églises comme vous nous soutiennent, ça nous enlève déjà ce fardeau-là. Quand on sait qu'il y a des gens qui prient pour nous, alors à mesure qu'on passe dans la tempête, des fois ça nous encourage à continuer. Alors vous avez un impact très important, plus important probablement que vous pensez. Alors, on veut juste vous remercier pour cela. Maintenant, quand les gens, probablement les implanteurs ou les gens que vous soutenez viennent, ils doivent vous parler d'évangélisation. Oui? Mais moi, je suis plus un pasteur qu'un implanteur. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui va motiver les gens à continuer la mission? À juste continuer à être fidèles? À continuer à avancer? Et souvent, c'est pas l'évangélisation. Souvent, c'est notre relation avec le Seigneur. Notre motivation profonde, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait lever le dimanche matin, ce qui fait qu'on veut servir dans l'Église, ce qui fait que si j'ai le choix d'en parler ou pas à mon voisin, je vais le faire, c'est ma relation avec le Seigneur. Et si je suis bien connecté au Seigneur, que je suis amoureux de lui, ça va faire toute la différence. Et c'est ce que j'aimerais vous présenter ce matin. Quand moi, j'ai fréquenté mon épouse Guylaine, j'avais pas besoin de me forcer pour en parler. Hein? J'imagine les gars, c'était comme ça, vous autres aussi. Alors, ma chambre, il y avait de la tapisserie avant, puis là, c'était une autre sorte de tapisserie. C'était toutes les photos de Guylaine un peu partout, le scotch tape. Quand les gens rentraient dans ma chambre, la première question, c'était « Mon ami, qui est-ce que c'est ça? » Il y en avait partout. Et j'avais pas assez d'argent pour faire des posters grandeur nature, mais je l'aurais fait si j'aurais pu. Alors, on veut avoir cette même passion-là avec le Seigneur. Maintenant, comment faire? Comment faire? D'ailleurs, c'est important parce que la solidité d'une église ou des individus dans l'église dépend en grande partie de notre relation avec Dieu. Et on vit énormément de pression de tous les côtés, peut-être pas à Québec, mais dans notre coin, là. Vivez-vous de la pression? Quels sont ceux qui ont en bas de 20 ans? Levez la main. Oh boy, vous autres, vous avez de la pression ici, oui. Mettons en bas de 30 ans. Il y en a qui sont aux études encore. Tu es forcé de rentrer dans le moule. La société met énormément de pression pour que tu rentres dans le moule. Puis si tu n'es pas dans le moule, tu te sens... Et même notre cœur est tortueux, fait qu'on a tendance, nous autres aussi, pour être reconnus, à vouloir rentrer dans le moule. Un peu plus tard, quand on est en train de vivre la famille et tout ça, il y a de la pression de tous les côtés. La pression au travail, c'est la performance, à la maison avec la famille, il faut que ça marche bien avec les enfants, le couple qu'on est en train de travailler, c'est énormément de pression. Et là, on ne parle pas encore de nos luttes. Après ça, on est grands-parents, et ceux qui pensent que quand vous êtes grands-parents, c'est fini la pression, oubliez ça. Là, on veut que les enfants réussissent, puis hein, on prie dessus pour que ça marche. Puis nous, on s'inquiète déjà pour la retraite. Et on s'inquiète parce que là, on est dans la partie qui commence à être plus problématique. Hein? Les bottes sont rendues lousses, tout vient de travers. Puis là, alors, on est toujours soumis à la pression, en plus de notre cœur qui est tortueux, en plus de la pression de la société. Et savez-vous ce qui me traumatise le plus? C'est que plusieurs parmi nous ne finissent pas la course. Quand je me rappelle ma conversion à l'église de Chauveau il y a 20 ans, plusieurs de ceux qui étaient là ne le sont plus. Et on peut juste dire la phrase facile, « Ben, il n'était pas chrétien. » Ça, c'est facile, puis ça nous sécurise. Et on peut dire ça en pensant que parce que nous, on est chrétiens, il y a comme cette bulle de protection qui nous encercle, puis il ne nous arrivera jamais rien à nous. Dieu va nous garder, Dieu va nous protéger, mon mariage est safe, mais ma vie est safe, mon travail est safe, j'aurai jamais le cancer. Non, ça ne marche pas comme ça. J'ai des gens, plusieurs, je crois pertinemment que ce sont des croyants, mais ils sont plus là. Ils sont retournés dans le monde. Et je pense que le point, c'est cette relation avec Dieu. Et moi, ma question, quand j'ai étudié ce texte-là, je me suis dit, Seigneur, comment être sûr? Parce qu'on n'a pas de certitude là-dessus. Ne pensez pas que parce qu'on est chrétien que j'ai fait une prière en 1960, ça ne garantit rien, ça. Alors, je me suis dit, Seigneur, comment je fais pour être sûr que je vais me rendre au bout de la route? Est-ce que ça remet le salut en question? Non. Mais comment, Seigneur, je peux finir la route d'une façon digne de toi? Et je pense que ça se situe là, dans ma relation avec Dieu. Définitivement. Alors, tournez avec moi dans Luc chapitre 10, les versets 38 à 42. C'est un texte, connaissant votre pasteur, il a dû vous parler de ça plusieurs fois, mais un petit texte simple, pas difficile à comprendre, mais avec quelque chose de très profond. Luc chapitre 10, les versets 36 à 38. Non, pardon, Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Oui, OK. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée. » Votre pasteur vous a déjà parlé de ça? Ah, je le savais. Pas la semaine passée, j'espère? L'histoire n'est pas compliquée, hein? Ici, c'est une famille, Marthe, Marie, Lazare. Probablement, vous avez déjà vu cette gang-là. C'est probablement une famille assez riche. On va le voir un peu plus loin dans le texte. Marthe est sans doute l'aînée des deux sœurs parce que c'est elle qui a l'air d'être en charge de la maison. Et probablement, dans une famille assez riche, la dame qui est en charge, probablement elle a l'habitude, comme certaines d'entre vous, mesdames, de faire des repas sans couvert. La grosse affaire. Quand on était à Fermont, nous, on a une famille, quand on allait manger là, c'était toujours 5 ou 6 couverts. Je ne pensais jamais qu'on pouvait salir autant de vaisselle pour un seul repas. Et c'était toutes sortes d'affaires, hein, des clams de ci, puis du homard de ça, puis de la salade, toutes sortes d'affaires qu'on ne connaissait pas en plus. Alors, quand nous, on voulait les inviter, Guylaine a dit, « Non, non, moi, juste du spaghetti. » Puis elle était mal à l'aise. Hein. Je disais, ces gens-là, ça mange. Alors, ceux les mesdames qui font 4-5 couverts, là, soyez à l'aise avec ça, c'est pas grave, si. Mais évidemment, l'histoire, Jésus a oublié son cellulaire en partant le matin. Donc, il ne peut pas appeler Marthe pour la préparer. Et il arrive à l'improviste, puis quel est le problème quand Jésus arrive chez nous à l'improviste? Il n'est jamais tout seul. Il y a du monde avec lui, minimum 12. Vous commencez à comprendre le stress de Marthe? Alors, Marthe sort le 5 couverts fois 20, et elle commence à se préparer. Et là, ça commence à l'irriter. Sa paresseuse de sœur est assise dans le salon, puis elle ne fait rien. C'est intéressant de voir ça dans le texte comme ça. Mais pensez à ce qui se produit quand tu es là dans l'église, puis tu travailles fort. Et là, tu vois Chose, Monsieur Chose, qui lui, il se claire tout de suite après le culte. Hein? Il part. Il ne sert jamais, lui. Il ne ramasse pas de papier, il ne replace pas de chaise, il ne fait pas l'école du dimanche. Puis Madame Chose, Madame Chose, hein? Elle ne nous a jamais reçus. Ça fait 20 ans qu'on est à l'église, elle ne nous a jamais reçus. Et là, il y a quelque chose qui monte dans notre cœur, hein? Hey, moi, je sers comme un bon. Puis je vois l'autre qui ne fait rien. Je vois l'autre qui ne s'implique pas. Hein? On fait d'évangélisation, les autres ne sont jamais là. Ils écoutent la game de hockey. Et il y a quelque chose qui monte dans notre cœur, certain. Quand on sert vraiment, beaucoup. Vrai? Non, dites rien. Ne levez pas la main. Maintenant, comment cette Marie peut être aussi paresseuse? Je veux dire, le Seigneur est en ville. Puis le Seigneur, c'est normal quand même. On ne le reçoit pas avec du Kraft Dinner. Pas votre pasteur non plus, j'imagine. Il n'y a pas de réponse. Probablement que le pasteur a déjà mangé du Kraft Dinner. C'est pas grave, on peut manger ça. Comment cette Marie peut être aussi paresseuse? Maintenant, pour ceux qui sont attentifs au texte de Luc, ce n'est pas la première fois que Marie rencontre le Seigneur Jésus. Si vous tournez juste un petit peu avant, Luc chapitre 7, versets 36 à 38. Marie a eu une autre rencontre avec le Seigneur Jésus. Luc chapitre 7, versets 36 à 38, ça dit « Un pharisien pria Jésus de manger chez lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. » Première rencontre avec le Seigneur Jésus. Pour ceux qui ne sont pas sûrs que c'est la même Marie, étant donné qu'il y en a sept dans le Nouveau Testament, vous aurez juste à regarder Jean 11, versets 1 et 2. C'est clair. C'est la même Marie. C'est cette Marie qui est la sœur de Lazare, qui a mouillé les pieds du Seigneur Jésus, qui les a essuyés avec ses cheveux. Alors, à cause de ce texte-là, on sait que la famille Marthe, Marie, Lazare était probablement assez riche, hein, un parfum qui valait un année de salaire, qui a beaucoup hérité Judas, parce que Judas lui voulait combler son année de salaire. Alors, on sait qu'ils étaient assez riches. Et le texte nous dit rien à propos de Marthe et Lazare, mais aussi pécheurs. Et Marie, quand on parle de elle, c'est probablement une femme pécheresse. Probablement, on parle d'une femme légère, d'une prostituée. C'est probablement ce qu'elle faisait. Marie, en rencontrant le Seigneur Jésus, on ne sait pas où elle l'a vu avant pour aller le voir comme ça puis faire ce qu'elle a fait. Mais probablement qu'elle a réalisé la personne qui était là devant elle, le Messie, le Sauveur. Et c'est intéressant, le texte nous montre sa motivation profonde à elle. Vous rappelez-vous ce que Jésus donne comme explication aux pharisiens? Et j'haïs ça, ce gars-là, il n'y a pas un nom que j'aime bien bien. J'haïs est dans cette position-là, il s'appelle Simon. J'aime pas ça, surtout quand c'est un rebelle ou un... J'ai fait un solo une fois à l'église de Chauveau, j'étais dans la chorale, on était peut-être 80, puis j'ai demandé à l'époque à Anne Hunsaker, « Anne, je veux chanter, je veux être dans la gang, je veux faire un solo, je veux... » OK, elle m'a donné un solo, quatre paroles. « Seigneur, est-ce-moi? » Et les autres répondaient, « Tu l'as dit, j'étais Judas. » Bon, je ne demande plus de faire des solos maintenant. Jésus va expliquer à Simon quelle est la motivation profonde de Marie. Dans Luc 7,40, Jésus prit la parole et dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Alors évidemment, à l'époque, comme aujourd'hui, c'est pas juste les pharisiens, c'est encore comme ça aujourd'hui, quand on voit des gens comme ça, on a tendance à les regarder de haut. Et en tant que chrétien, hein, on a tendance à oublier d'où qu'on vient, puis on se dit, « Monsieur, quelle sorte de vie qu'ils mènent ces gens-là? » Et des fois, c'est fou, on a oublié d'où on arrive, nous. On a oublié que si ce n'était pas de la grâce de Dieu, on serait là aussi. Et Simon, avec sa gang, il regarde cette femme-là, tout indigné, puis se demande, « Hey, qu'est-ce qu'elle fait là? » Et Jésus lui explique. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. « Lequel l'aimera le plus? » Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse dette. » Jésus lui répondit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau à boire, pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Maintenant, ce texte-là est très souvent mal compris, surtout par les enfants de familles chrétiennes, qui disent, « Ben moi, c'est sûr je ne suis pas passionné pour Dieu comme d'autres parce que, tu sais, je n'ai pas été pardonné beaucoup. » Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas tous allés aussi loin dans le péché que d'autres. Vrai? Maintenant, est-ce que Jésus est en train de dire, « Ben, si je ne t'ai pas pardonné beaucoup de péchés, ça veut dire que tu vas toujours être un tiède. » C'est ça? J'espère que non. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Simon? Simon, elle a réalisé le prix que j'ai payé pour ses péchés. Et la conséquence, mon ami, elle aime. Simon, lui, est un pharisien propre juste et il n'a pas réalisé ce que Jacques, chapitre 2, dit. Si tu as péché contre un seul commandement de la loi, tu es coupable envers tous. Comment ça coûte de moins au Seigneur Jésus pour quelqu'un qui a moins péché? Un clou? 10 coups de fouet? Comment ça coûte de différence? Même prix. Jésus est littéralement en train de dire, Simon, le point, c'est qu'elle a réalisé le prix que j'ai payé, ou que je vais payer. Jésus n'est pas encore mort sur la croix. Elle a réalisé la grâce de Dieu. Toi, tu ne réalises pas encore. Et certains d'entre nous, c'est ça le problème. Ce n'est pas qu'on a moins péché ou qu'on a moins été pardonné, c'est qu'on ne réalise pas la grandeur du pardon qui nous a été donné. On ne réalise pas. Et ça, ça change notre motivation. Parce que si je suis en train de servir Dieu ou de marcher avec lui parce qu'il faut, ça, ça dure à peu près 2 ans. 3 pour les plus toughs. Mais il faut, si tu t'es couché trop tard le samedi soir, là, il faut le dimanche matin, ça passe un moment. Ça ne dure pas, ça. Si je le fais parce que mon pasteur est un homme sévère et un homme, tu sais, dur, et ben, vous auriez tout lâché ici, probablement. Pas votre genre de pasteur, hein? Pas que je connais, à moins que... Ferme les yeux, René, une seconde. Levez la main si c'est un homme... Non, c'est pas vrai. Pour Marie, rien n'est plus important pour cette deuxième rencontre que d'être dans la présence du Seigneur Jésus, juste de l'écouter, d'écouter ce qu'il a enseigné, de suivre sa direction. Marie est reconnaissante, tout simplement. Elle veut être à ses pieds. Elle veut l'entendre. Marthe n'a pas eu cette rencontre-là encore. Et Marthe, sa motivation, probablement, c'est son service. Hey, Seigneur Jésus, ta maison, il faut faire le meilleur qu'on peut. Mais quand notre motivation, ce n'est pas mon amour pour le Seigneur, mon service va en être teinté. Et probablement, à un moment donné, l'irritation va commencer à venir dans mon cœur. Et vous savez ce qui se passe dans l'Église quand je commence à être irrité contre tout le monde? C'est parce que ça fait longtemps que ce n'est plus Dieu que je sers. Je suis en train de servir l'Église, puis l'Église n'est pas reconnaissante. Je n'ai pas eu mon chèque, puis là, il y en a qui font rien. Je peux pas, je manque la série du hockey pendant qu'il y en a qui l'écoutent, puis ça mérite. C'est ça qui se passe. Et j'ai changé mes yeux de place. Il y a un passage très intéressant dans 2 Pierre 1:5. Ça dit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point stériles ni oisifs pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. » Écoutez le verset 9. « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification des anciens péchés. » Connaissez-vous beaucoup de gens qui ont des problèmes plus que ça? Ils sont aveugles puis ils ne voient pas de loin en plus. Ça, c'est dur pour un ophtalmologue. Hein? Il est aveugle puis il ne voit pas de loin. Il ne reste plus grand-chose. Mais le point du texte, verset 9, c'est « Il a oublié la purification des anciens péchés. » De quoi on parle, là? Il a oublié sa conversion. Il a oublié ce que le Seigneur Jésus a fait pour lui il y a 20 ans. Et là, sa motivation est affectée. Te rappelles-tu quand le Seigneur Jésus t'a sauvé? Et que c'était génial. Je me rappelle, moi, j'étais dans ma petite chambre à base militaire, 4x8. Et je m'imaginais le soir que le Seigneur Jésus descendait avec sa grosse main et qu'il disait, « Viens-t'en, petit homme, on s'en va à la maison. » Ah! J'espérais donc ça. Vous rappelez-vous de ces temps-là? Où tu étais prête à résister à n'importe quel péché? Parce que tu l'aimais, pas parce que l'Église. Tu ne connaissais pas encore l'Église. Tu ne connaissais pas les lois de l'Église, ni le pasteur. Lui-ci ne nous connaissait pas, c'était une bonne affaire. On l'aimait, c'est tout. Puis on marchait avec la connaissance qu'on avait. J'avais à peu près 3-4 semaines de vie chrétienne. J'étais dans l'armée, vous imaginez la vie que j'avais. Et j'avais donc de la misère avec les filles, moi. Il semble qu'elles étaient toutes belles, les filles. Et surtout dans l'armée. C'était les seules qui avaient les cheveux longs. On a tous les cheveux courts, nous autres. Mais bon. Alors, mon pasteur a vu ça à Grimbé, Serge Gagné, vous avez vu sur l'image tantôt. Puis Serge m'a dit, Simon, je connaissais rien de la Bible, je connaissais rien de ça, mais tout ce que je savais, Fernand Pelletier me l'avait rentré dans la tête à coup de masse à peu près en 8 heures. T'es pécheur, t'es perdu, Jésus est mort pour toi. Et puis quand je suis sorti, c'était clair. Puis vraiment, Dieu m'a sauvé avec ça. Je suis revenu dans ma chambre à base militaire, puis je savais que j'étais pécheur perdu, puis j'avais besoin de me convertir, là. Et le Seigneur m'a sauvé. Mais là, Serge a vu tous les problèmes que j'avais. Il m'a dit, Simon, dimanche matin après le culte, vite, vite, entre deux, il m'a dit, Simon, écoute, là, les filles, là, tu touches plus. Je suis reparti à base militaire. Le problème, c'est que j'avais une amie qui descendait de Toronto, Ontario, puis qui s'en venait dans ma chambre pour la fin de semaine. J'ai un lit qui est à peu près ça de large. Mais je suis un nouveau chrétien, puis j'aime le Seigneur. Elle a couché là, à côté de moi, toute la fin de semaine, et je n'ai pas touché. Mais savez-vous quoi? Je me suis réveillé chaque matin, puis j'étais rempli du Saint-Esprit. C'est la connaissance que j'avais, puis j'aimais le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, si je le referais, ça passerait même moins bien. Là, mais Serge Gagné n'a plus de cheveux sur la tête, parce que quand je revenais, j'étais content. Je disais, Serge, ma blonde est venue, puis j'ai pas touché. Puis là, aïe, 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 aïe. Ma blonde aussi, elle se demandait, aïe, 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 ce qui se passe avec lui? Mais, et en as-tu des choses qu'on est prêt à faire? Hein? Quand je me suis converti, mon père m'a dit, « Garçon, ça ne marche pas, ça. » Il a sorti mes valises dehors avec le linge. Malheureusement, il n'a pas pris le temps de les placer dedans. Il a tout pitché ça. Puis il m'a dit, « Écoute-moi bien, là. Si tu parles de ça à ta mère puis que tu l'amènes dans ta religion, je te tue puis je divorce ta mère. Si jamais tu parles de ça dans ma famille, je te tue. C'est réglé. Si jamais tu te maries là-dedans, j'y vais pas. Si tu meurs là-dedans, j'y vais pas. Puis l'héritage, tu débarques. » Puis il m'a fait 7-8 promesses comme ça et jusqu'à date, il a été fidèle. Oh oui. Il était très fidèle. Mais je n'ai pas arrêté d'y parler d'Évangile. J'aimais le Seigneur Jésus. Et j'ai accepté que mes valises sortent. J'ai accepté 4 ans plus tard qu'il ne soit pas à mon mariage. Et j'ai pris la chance de mourir. J'ai invité son frère à un film, Le Voyage du Pèlerin. Mais j'ai dit à toute l'église, frère et soeur, je vais mourir probablement à la fin de semaine. Là, les gens se demandaient. J'ai déjà invité, puis il est venu. Il est arrivé après le film. Il était bien pacté. Fait qu'il ne s'est jamais rappelé de l'histoire, puis moi, je suis resté en vie. Mais parce que j'aimais le Seigneur, j'étais prête. Voyez-vous, ce qui va nous garder pendant 25, 30, 40, 50 ans, jusqu'à temps que le Seigneur revienne ou que la mort nous amène, c'est cet amour-là pour le Seigneur Jésus. Rien d'autre. Pas mon service dans l'Église, pas mon pasteur, pas le... Il n'y a rien d'autre qui va me garder. Vous avez entendu parler de Jacques, Jacques qui a écrit l'Épître, qui est le frère du Seigneur Jésus. L'histoire de l'Église, ce n'est pas la Bible, mais l'histoire de l'Église nous dit que quand il est mort, ses genoux avaient des écailles. Et je pense que Jacques, comme ses frères, n'a pas cru dans le Seigneur Jésus. Hein? Pendant tout le temps que le Seigneur Jésus était vivant, ils sont moqués de lui. « Vas-y, va faire ta publicité à Jérusalem, on va aller te rejoindre. » Puis ils l'ont pas cru. Et quelque part, après la résurrection ou je ne sais pas quand, Jacques s'est converti, comme le reste de ses frères. Et je pense que quand il a réalisé qui était son frère, il a voulu racheter le temps. Il a passé des heures et des heures à genoux, juste à racheter le temps, à passer du temps à un homme avec son Dieu. Et c'était son frère. Réalisez-vous, même si le Seigneur Jésus ne nous avait pas sauvés, réalisez-vous le privilège d'avoir un libre accès auprès du Dieu vivant. On n'a même pas d'accès auprès de notre premier ministre à nous. Mais on a un accès auprès du Dieu vivant. Et même si Dieu ne nous avait pas sauvés, juste ça, ça vaudrait la peine. Mais en plus, il nous a fait grâce. Et quel privilège d'avoir cette relation-là. Je sais ce que je vais dire dans la suite, ça ne va pas nous préparer pour le dîner, je m'en excuse, mais j'ai vu un reportage il y a quelques années, Poulet frit Kentucky. Vous savez pourquoi ça a changé de nom, PFK? Parce qu'aux États-Unis, le gouvernement, bon, il y en a qui me disent que c'est un mythe urbain, peut-être, c'est l'image que je veux que vous reteniez. Aux États-Unis, c'est défendu d'appeler ça poulet frit Kentucky parce que c'est plus du poulet. C'est une genre de bébite qui est élevée avec un tube, ça prend 21 jours, ça n'a pas de pattes, pas de plumes, pas de bec. Et après 21 jours, on déplogue le tuyau, puis Kentucky. Je suis désolé pour ceux qui aiment ça. C'est peut-être juste un mythe. C'est peut-être juste un mythe. Mais nous, on est comme des petits PFK. Si on ne reste pas connecté sur le tube, on meurt. Et si on ne reste pas... Je ne suis pas en train de dire que le salut se perd. Je ne crois pas à ça. Mais je pense que pour finir la route avec le Seigneur Jésus jusqu'au bout, pour être motivé, pour que quand les gens vont rentrer ici, ils voient l'Évangile, ils voient la vie du Seigneur Jésus visiblement, il faut qu'on soit connecté sur lui. Il faut. Si on veut être zélé pour lui, si on veut soutenir la mission à Coansville, la mission, peu importe. On a besoin de cette relation-là. C'est la motivation qui va nous garder jusqu'au bout. Pas d'autre chose, frères et sœurs. Pas d'autre chose. Ce matin, c'est les deux choses que j'aimerais vous amener. Juste vous rappeler. Rappelez-vous de la purification des anciens péchés. Retourne en arrière dans ta pensée. Rappelle-toi quand le Seigneur Jésus t'a sorti de là où tu étais. Regarde tout le chemin qu'il a fait. Je sais, on n'est pas rendu encore. Mais mon ami, qu'on n'est plus ce qu'on était. Vrai, Danny? J'en faisais pas de vaisselle à l'époque. Là, je la fais à cette heure. Je suis marié, c'est pas le choix. OK. Et qu'on n'est plus où est-ce qu'on était. Et moi, mon espérance, d'année en année, je fais des objectifs, je regarde en arrière, je me dis, ah, Seigneur, c'est bon, j'ai avancé. Je regarde en avant, là, je suis découragé. Mais je mets d'autres objectifs, puis on va se rendre, par la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, n'oublie pas d'où tu es venu. N'oublie pas celui qui a été te chercher à un grand prix. Et il me semble, les chrétiens, trop souvent, on se laisse arrêter, je peux pas, j'aime pas ça, je... Hey, avec le prix que notre Seigneur a payé, il n'y a pas de place dans notre vie pour « j'aime pas ça, je veux pas, je peux... » On y va. On avance. Deuxième chose, rappelle-toi le privilège quand ça ne te tente pas de prendre du temps avec Dieu. Tu as un libre accès avec le Dieu vivant, l'alpha et l'oméga. On est juste en train de se préparer pour l'éternité, hein, vous savez. Si tout le reste prend la place du Seigneur, qu'est-ce que je vais faire rendu au ciel quand il n'y aura plus de série de hockey, plus de Nintendo, plus de... Il n'y en a pas de ça, là, je pense. S'il y en a, bien plus performant qu'aujourd'hui, mais bon, peu importe. Il n'y en a pas de ça au ciel. C'est le Seigneur. Profite de ta relation avec lui maintenant. Moi, mon désir, c'est quand je vais arriver au ciel, je veux être sûr, je veux le connaître tellement que je ne me tromperai pas. Ah, Seigneur! Non, je suis l'apôtre Pierre. Non, je veux le reconnaître. Je veux le reconnaître. Frère et sœur, profitez du privilège. Rappelez-vous que Dieu vous bénisse. Prions. Oh Seigneur Jésus, je ne connais pas tous les frères et sœurs qui sont ici. Peut-être même certains sont ici, Seigneur, et ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas cette relation-là. Et Seigneur, c'est tellement simple de te connaître, juste de reconnaître notre condition de pécheur qui mérite la condamnation. Juste de mettre notre confiance en toi, dans ton sacrifice sur la croix. Dis, Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Et Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont ici, je sais qu'il y a des luttes, qu'il y a des pressions, il y a des épreuves, il y a des questions non répondues. Il y a des épreuves où il n'y a tout simplement pas de réponse de ce côté-ci. Seigneur, je te prie pour chacun d'eux que tu les emmènes jusqu'au bout de la route. Mais en même temps, Seigneur Jésus, il y a une partie qui est notre responsabilité. Veux-tu, Seigneur, nous donner la sagesse de prendre ce temps si précieux avec toi chaque jour, quotidiennement, de rester plugué, connecté. Ô Seigneur, garde-nous pour ta plus grande gloire, Seigneur Jésus. Amen.